ceux qui étaient à la messe le dimanche soir il y a 15 jours, il y a 10 jours, vous avez peut-être su que j'étais très marqué par le départ de Jean Vanier, cette belle figure chrétienne. Et du coup, je me pose presque la question, est-ce que l'année prochaine, je puisse faire une méditation sur l'œuvre spirituelle de Jean Vanier. Alors, je ne sais pas dans quel cadre, mais en tout cas, pour notre paroisse, je pense que cet homme avait quelque chose de prophétique pour l'Église. Et en méditant ces derniers jours avec lui, je me disais que Jean Vanier avait un point commun avec Mère Teresa, c'est que l'un et l'autre avaient, dans leur chemin spirituel, joint l'Eucharistie et les pauvres, qui sont pour eux, au fond, les deux corps du Christ. Il y a le corps du Christ que nous servons dans l'Eucharistie, ceci est mon corps, et puis il y a cet autre corps du Christ qui est le corps des personnes. Vous savez, dans Matthieu 25, lorsque Jésus parle du jugement dernier, il dit « J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu à moi, j'ai été seul », etc. Donc il nous rappelle que, en fait, il y a deux manières de pouvoir rejoindre authentiquement et réellement le corps du Christ. Il y a l'adoration eucharistique et il y a le service des personnes fragiles, des pauvres, des différents types de pauvreté, de fragilité, fragilité psychologique. Il y a les pauvres que nous rencontrons à Magdalena ou dans les tournées ou au Rameau. Et l'un et l'autre, Mère Teresa comme Jean Vanier, n'ont cessé d'aller de cette première présence du Christ à cette deuxième présence du Christ en cherchant à faire... alors moi je vois Alain, et je sais qu'Alain ça fait partie un peu de très doute engagé, je vois aussi Marie-Hélène. Il y a plusieurs personnes dans la paroisse qui sont dans cette veine-là, de l'adoration eucharistique et du service du corps du Christ à travers les pauvres. Mère Teresa avait comme condition pour la fondation d'une communauté la possibilité que les sœurs puissent avoir la messe quotidienne et un tabernacle avec l'Eucharistie. C'est pour ça que pendant des années, Mère Teresa n'a pas pu fonder en Chine, parce que si les sœurs partaient en Chine, elles ne pouvaient pas avoir l'Eucharistie. Et pour elle, c'était une condition sine qua non pour établir une fondation des sœurs de Mère Teresa. Et souvent, Mère Teresa disait que si elle n'avait pas elle ne puisait pas dans l'Eucharistie l'énergie nécessaire, elle ne pourrait pas aller au-devant des personnes dont elle avait à s'occuper, qui parfois étaient sentaient mauvais, étaient malades, enfin, quelque chose de physique assez difficile. Je me souviens aussi que, certaines personnes ne le savent pas, mais lorsque j'étais ordonné prêtre, moi je rêvais partir en Inde. Parce que pendant mon cheminement comme prêtre, pendant les années de noviciat, il y a eu un moment un peu difficile et je suis parti vivre en Inde, je suis revenu, ensuite j'étais ordonné prêtre et je pensais que mon chemin était d'être missionnaire. Et donc j'avais demandé, puis quelques jours avant l'ordination sacerdotale, on reçoit une petite lettre dans notre casier qui nous annonce le lieu de destination où on exercera son ministère de prêtre. J'attendais ce jour en me disant ben, « je vais peut-être partir en Inde ». Et puis, le jour où je reçois la lettre, on m'annonce que je pars à Attichy, dans l'Oise, dans une paroisse rurale. Donc là, tout s'écroule. C'est cette volonté d'aller annoncer le Christ à l'autre bout du monde, parfois un peu utopiste, mais qui est quand même belle, ben, au milieu des champs de patates. C'est un peu moins poétique. Ça met moins en valeur hein, tout de suite. Hein. Quand tu dis à tes parents ben, « je pars à Attichy ». Et où ça? Mais dans mon malheur, imaginez les premières messes que je célèbre. Donc je célèbre la messe devant le premier dimanche. Hein, vous êtes tout jeune prêtre, vous avez 28 ans, et vous célébrez la messe devant 15 personnes. C'est rude. Hein. Donc il y a eu une phase un petit peu difficile, et au départ, j'ai pas forcément compris pourquoi le Seigneur a permis de. Je me disais, mais c'est quand même absurde, il y a des jeunes prêtres, qu'on le mette avec des étudiants, qu'on le mette avec des jeunes, qu'on le mette au milieu des enfin, bref, vraiment c'est un management débile. Bref, et puis j'ai découvert assez rapidement qu'Attichy, en fait, c'était à 4 km de Trolibraille. Et donc, puisque j'avais un peu de mal à trouver ma place dans cette paroisse rurale, j'ai été aumônier de deux foyers de l'Arche, dont un foyer dans lequel il y avait un certain Michel qui maintenant est au ciel, et qui était un des tout premiers, pas le tout premier, mais dans les premiers que Jean Vanier a accueillis, et donc on voyait très régulièrement Jean Vanier. Il ne prévenait pas, il était chez lui, il était avec sa petite Clio à l'époque, il sortait son corps déplié comme vous voyez les maîtres d'architectes. Et puis il arrivait comme ça le matin, le soir, le midi. Donc j'ai eu cet énorme cadeau de voir un saint et de pouvoir bénéficier de sa présence, de son enseignement. Et c'est vrai que lorsque vous n'avez pas de contact avec les personnes handicapées, parfois, certaines sont abîmées. Il y a des phénomènes de répulsion. Et Jean, comme Mère Teresa, puisait dans l'Eucharistie, dans un temps long devant l'Eucharistie. Mère Teresa, c'était quand même 2 heures par jour. Hein. Le matin, le soir, comme des conditions sine qua non. Et il me semble qu'il y a là quelque chose. Que nous devons garder ces deux dimensions du corps du Christ, le service et l'adoration, comme deux éléments en fait, qu'on ne peut pas dissocier. Et notamment, Jean Vanier, j'en témoignais à certains au cours d'une célébration eucharistique un matin, c'est pour ça que Jean Vanier voyait dans le lavement des pieds quelque chose d'extrêmement important. Parce que le lavement des pieds, c'était le moment où on vivait ça tous les jeudis saints à l'Arche. Mais pas comme on le fait à la paroisse. La paroisse, c'est le curé qui enlève ses affaires et qui sert ses paroissiens en lavant les pieds. Là, à l'Arche, en fait, on se met tous en cercle et c'est la communauté qui se lave les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on est tous en cercle et puis à côté, on a un assistant, de l'autre côté, on a une personne handicapée. Et puis, on va se laver les pieds mutuellement. Et après avoir lavé les pieds de mon frère va me bénir. Et ensuite, je vais laver les pieds de mon frère qui va me bénir, qui va laver les pieds de son frère qui va me bénir. Et quand vous avez cette expérience de vous faire bénir après avoir lavé les pieds par une personne handicapée mentale dont vous n'avez absolument pas une seule seconde l'idée de ce qui se passe dans sa tête, de ce que ça représente pour elle, on est quand même au cœur de l'évangile. Et en poursuivant ces derniers jours, cette méditation que je voulais vous partager, j'en suis revenu sur une expression que Jean-Paul II prenait souvent, où il disait « il nous faut mener une vie eucharistique ». Ça peut sembler très bien, ça me semblait un petit peu bateau et sans profondeur. Et du coup, j'ai repris, et je voudrais vous inviter à le faire si vous avez le temps. Jean-Paul II, comme le pape Benoît XVI, ont écrit des choses absolument merveilleuses sur l'Eucharistie, d'une simplicité, d'une profondeur bouleversante. Je vous conseille deux textes. Je vous conseille le texte Mane Nobiscum Domine, qui est là pour le coup une lettre très courte, qui est un commentaire de Saint-Luc par le pape Jean-Paul II. Et je vous lirai à la fin juste une petite sélection de textes que j'ai choisi. Sur les disciples d'Emmaüs, et qui était une lettre d'introduction à l'année eucharistique de 2004-2005. Donc, Saint-Père avait écrit une lettre qui se lit en 20 minutes. Reste avec nous, Seigneur, le soir approche, déjà le jour baisse, Mane Nobiscum Domine. Et puis un texte un tout petit peu plus long, un peu plus charpenté, qui est une encyclique, qui s'appelle Ecclesia de Eucharistia. Qui a été traduit par l'Église vie de l'Eucharistie. Mais en fait, Ecclesia de Eucharistia, en latin, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est l'Église provient et issue, trouve son origine, dans l'Eucharistie. C'est beaucoup plus fort que simplement l'Église vie de l'Eucharistie. On pourrait prendre ça simplement comme Eucharistie, c'est à son service. Vous voyez, c'est-à-dire que pourquoi je vais à la messe? Parce que j'ai besoin d'énergie. Donc du coup, non, l'Eucharistie, c'est bien plus que ça. L'Eucharistie, c'est ce qui est la forme de l'Église. Et constitue l'Église. Et donc, dans ces différents textes où le pape... Alors, il n'y a pas un lieu synthétique, parce que le problème du pape Jean-Paul II, à la différence de Benoît XVI, c'est qu'il n'a pas un esprit de synthèse, en fait. Donc, quand il dit un truc, il tourne, il dit un truc, il reprend. Donc, en fait, il faut prendre les puzzles. Donc, moi, je vais vous proposer ma synthèse, de cette expression, qu'est-ce que c'est que pour Jean-Paul II mener une vie eucharistique, que j'ai glané en relisant cette semaine, un peu en diagonale, mais quand même, ces deux textes. Donc, pour le pape Jean-Paul II, et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, dans cette expression « mener une vie eucharistique », on a, comme avec Jean Vanier, comme avec Mère Teresa, ce rapprochement entre l'adoration et l'action, cette synthèse. Il faut mener une vie eucharistique. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, parce que Jean-Paul II, dans son texte « Mani nobiscum domine », il utilise trois termes. Il dit « il faut célébrer, adorer, contempler ». J'aime bien ce célébrer, adorer, contempler. Célébrer, c'est la célébration eucharistique de la messe. On ne peut pas adorer sans, en le coupant de la célébration. Et il rappelait l'importance, et on essaie de le faire, et je pense qu'on entend toujours quelque chose à reprendre, la qualité de la célébration. Célébrer, adorer et contempler. Sachant que la célébration, l'adoration, c'est ce qui est en notre pouvoir. Dans la célébration, et ça c'est la richesse de Vatican II, c'est que c'est pas simplement le prêtre qui célèbre, mais le prêtre et la communauté chrétienne célèbrent ensemble. Et c'est pour ça que les dimensions dialogales sont beaucoup plus importantes et plus fortes, c'est pour ça qu'on est passé au français, c'est pour manifester en réalité que la célébration eucharistique se fait par la rencontre du prêtre et du peuple de Dieu. C'est pour ça que jusqu'à une réalité assez récente, un prêtre ne pouvait pas célébrer la messe seule. C'est pour ça que, comment il s'appelle, Charles de Foucault, tout en étant prêtre, ne va plus célébrer la messe, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'autorisation de célébrer la messe seule. Donc la célébration, l'investissement de la dans la célébration n'est pas à côté de ce que vous vivez quand vous êtes dans l'oratoire du Saint-Sacrement. Parce que vous célébrez par toute votre vie le mystère du Seigneur au cœur de la messe. C'est vous qui faites, vous êtes la matière de l'offrande que le prêtre va présenter à Dieu. Célébrer, adorer, contempler. Alors, lorsqu'on cherche à essayer de comprendre cette expression de mener une vie eucharistique pour Jean-Paul II, il va donner cinq axes. La première chose, il dit, mener une vie eucharistique, c'est chercher à vivre dans l'action de grâce. Première dimension. Pourquoi ? Parce que Eucharistie, c'est dire action de grâce, hein, c'est en grec. Et donc, c'est chercher tout au long de sa vie à vivre dans la louange. C'est une première façon de se préparer au culte eucharistique. Pour ne pas faire du culte eucharistique simplement un point dans notre agenda hebdomadaire ou journalier. Voilà ce que dit Jean-Paul II, dit « Nous portons nos propres croix ». Et nous ne sommes certainement pas les seuls à les porter. Mais les dons reçus sont si grands que nous ne pouvons pas ne pas chanter du plus profond de notre cœur, le Magnificat. Ça, c'est une vision, j'allais dire, chrétienne. Nous avons nos propres croix, et nous ne sommes certainement pas les seuls à les porter. Mais la conscience que nous donne la foi devrait nous faire jaillir au-delà de nos croix le chant du Magnificat. Donc c'est la première dimension d'une vie eucharistique, d'une vie modelée par l'Eucharistie. C'est l'importance de la louange et de l'action de grâce. La deuxième chose, il nous dit, une vie eucharistique, c'est une vie qui sait faire mémoire. Au cœur de la célébration eucharistique, il y a cette expression « faites cela en mémoire de moi » et qui fait écho à tout le mouvement de l'anamnèse qu'il y a dans le peuple juif aimait à faire mémoire de ce que Dieu avait fait pour lui. Et on voit ça dans les psaumes, le nombre de fois que le peuple d'Israël fait mémoire de la traversée de l'Exode, de la traversée de la mer Rouge. Et comme si, au fond, la mémoire de ce que Dieu a fait est la promesse de ce que Dieu fera. Donc, est-ce que nous aussi, nous avons une vie qui sait faire mémoire des dons de Dieu ? Et en faisant mémoire, nous rendons présent authentiquement le Christ. Alors ceux qui je préfère me répéter que me contredire, mais j'aime beaucoup Madeleine Lebray qui dit « Seigneur, si tu es partout présent, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs ?» Donc l'importance de faire mémoire. Ensuite, il nous dit, Jean-Paul II, « Mener une vie eucharistique, c'est mener une existence qui soit donnée aux autres. Le cœur de la célébration eucharistique, c'est « Ceci est mon corps livré pour vous. » Je vous lis une petite citation de Jean-Paul II. Il y a encore un point sur lequel je voudrais attirer l'attention parce que sur lui se joue d'une manière notable l'authenticité de la participation à l'Eucharistie, célébrée dans la communauté chrétienne. C'est l'élan qui s'en dégage en vue d'un engagement effectif dans l'édification d'une société plus équitable et plus fraternelle. Alors, l'authenticité de la participation à l'Eucharistie se dégage en fonction de l'élan d'engagement effectif de nos vies. Donc, donner sa vie, et c'est tout le paradoxe du prêtre, c'est-à-dire que ce qui est magnifique le jour de l'ordination, c'est qu'on est livré, on s'allonge de tout notre long pour recevoir la grâce de Dieu. Mais si ma vie, je l'ai donnée simplement à 28 ans, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quels sont mes lieux où j'ai du mal à donner ma vie pour que ma vie soit vraiment eucharistique? Et vous voyez, c'est important qu'on fasse ce petit chemin avec le pape Jean-Paul II, parce que parfois des difficultés qu'on va voir dans notre prière, elles vont être liées non pas en fait à ce qui se passe dans la chapelle, mais à ce qui se passe dans le reste de mon écosystème et dans le reste de ma vie spirituelle. Et ces cinq éléments du Dieu eucharistique peuvent nous permettre peut-être de faire un petit diagnostic. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la louange aujourd'hui? Quelle est cette croix que je trouve trop lourde et qui aujourd'hui me prive de toute joie, ou me prive de mon rayonnement, de l'attention aux autres? Comment je peux me décentrer, faire mémoire des dons reçus? J'aime tellement cette parole de Jean-Baptiste, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Mais ça, c'est tout le programme de la vie chrétienne. Et puis, une existence donnée aux autres. Quatrième point, et c'est un point extrêmement important, Jean-Paul II nous dit qu'une vie eucharistique, c'est une vie qui est marquée par la communion. Et dans la tradition de l'Église, la communion, lorsqu'on parle, vous savez, l'expression sacrement de la communion. Dans l'histoire de l'Église, chez les pères de l'Église, lorsqu'on parlait du sacrement de la communion, on ne parlait pas de l'Eucharistie, en fait. Lorsqu'on parlait du sacrement de la communion, on parlait de l'Église. L'Église est le sacrement de la communion. Et nous, le mot communion, petit à petit, ça s'est réduit simplement au moment où on vient recevoir le Jésus dans le cœur. Donc l'Église est le sacrement de la communion. Et là-dessus, mon Dieu, que nous pouvons encore grandir, croître. Et en particulier, je sais bien que notre paroisse, elle a beaucoup de qualités, mais qu'elle peut encore grandir sur cette notion de communion. Et puis, le dernier élément que nous donne le pape Jean-Paul II pour mener une vie eucharistique, c'est une vie consacrée. Pour nous rappeler que par le baptême, nous sommes consacrés. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le colloque que nous avons vécu samedi dernier, qui est un colloque épineux, difficile, sur l'accès à la communion, enfin, c'était un des points, c'était pas le seul point, mais l'accès à la communion des personnes divorcées, remariées, c'est que, en même temps, cette discipline de l'Église, elle nous interroge sur la façon dont on reçoit l'Eucharistie et sur la préparation que nous devons avoir pour que nous soyons authentiquement le temple de Dieu. Une distance qui est consacrée. Ma vie est donnée au Seigneur. Ma vie lui appartient. Et ce n'est pas simplement une consécration qu'il y a. La consécration religieuse, c'est une consécration de notre être, de notre corps. Si je reçois l'Eucharistie, c'est parce que je désire que tout mon être, toute ma vie, toute mon existence soit consacrée à Dieu. C'est ma vocation. C'est l'appel de Dieu sur moi. Alors, vous voyez, je vais simplement finir avec quelques petits passages que je vais vous lire comme ça, sans commentaire, de cette lettre Manet Lebiscum Domine. Je pense que c'est extrêmement important. On fait tous cette expérience quand on choisit une vie de prière régulière, du désert, de la sécheresse, de la difficulté à la fidélité, etc. On a le droit de tomber, on a le droit de chuter, c'est pas grave, mais ce qu'il faut, c'est en avoir le désir de cette humilité. Mais il faut aussi se nourrir. Et je trouve que dans les trois derniers papes qu'on a eus, on a tout ce qu'il faut, et je pense que Jean-Paul II et Benoît XVI ont cette richesse spirituelle par rapport au mystère de l'Eucharistie, donc n'hésitez pas à aller relire chez eux de quoi vous nourrir. Alors je vous lis quelques petits passages pour achever ce temps. L'Eucharistie est un mystère de lumière. Jésus s'est qualifié lui-même de lumière du monde, et cette caractéristique est bien mise en évidence par des moments de sa vie tels que la transfiguration et la résurrection, où sa gloire divine resplendit clairement. Dans l'Eucharistie, au contraire, la gloire du Christ est voilée. Le sacrement de l'Eucharistie est bien le mysterium fidei par excellence. C'est donc précisément à travers le mystère de son enfouissement total que le Christ se fait mystère lumineux, grâce auquel le croyant est introduit dans la profondeur de la vie divine. L'Eucharistie, un grand mystère, mystère qui doit avant tout être bien célébré. Il faut que la messe soit placée au centre de la vie chrétienne et que dans chaque communauté on fasse tout, tout son possible, pour qu'elle soit célébrée de manière digne, dans le respect des normes établies, avec la participation du peuple de Dieu, associé des ministres dans l'exercice de leurs tâches. Il convient tout particulièrement, aussi bien dans la célébration de la messe que dans le culte eucharistique hors de la messe, de développer une vive conscience de la présence réelle du Christ, en prenant soin d'en témoigner par le ton de la voix, par nos gestes, par nos mouvements, par notre comportement tout entier. À cet égard, l'attention qui doit être portée au moment de silence dans la célébration comme dans l'adoration eucharistique est importante. En un mot, il est nécessaire que les ministres et les fidèles traitent l'Eucharistie avec le plus grand des respects. La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque les battements de son cœur. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Si l'Eucharistie est source de l'unité ecclésiale, elle en est aussi la plus grande manifestation. L'Eucharistie est la manifestation de la communion. Lors de chaque messe, nous sommes appelés à nous confronter avec l'idéal de communion que le livre des Actes des Apôtres donne comme modèle pour l'Église de toujours. C'est l'Église rassemblée autour des apôtres, convoquée par la parole de Dieu, capable d'un partage qui ne concerne pas uniquement les biens spirituels, mais aussi les biens matériels. Je vais simplement finir par quelques courtes prières avec vous.